Le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, les bonnes pratiques de la grande distribution en matière de gaspillage alimentaire. Malgré quelques mauvais élèves, près de 95% des magasins redonnent leurs invendus aux associations. Reportage à suivre. L'avenir ferroviaire européen entre les mains de la Commission de Bruxelles. Décision attendue aujourd'hui sur la fusion très mal partie entre Alstom et Siemens. Dans l'actualité également, Donald Trump devant le Congrès qui se félicite de ses bons résultats économiques. Enfin, une journée officielle de commémoration du génocide arménien en France et avis aux amateurs de Gaulois réfractaires, le tout premier Astérix ressort en librairie aujourd'hui, 60 ans après.
Dans 20 minutes à 7h50, Léa Salamé, je vous le rappelle, reçoit l'un des plus grands écrivains français. J'ai nommé Emmanuel Carrère.
France Inter.
Et c'est ce qu'on appelle, Sébastien, l'exception qui confirme la règle.
Oui, il y a deux jours, un magasin Leclerc de Mimizan s'est fait épingler par des militants anti-gaspi pour avoir jeté et arrosé d'eau de Javel des fruits, des légumes, de la viande encore consommables. Mais en réalité, ce genre d'histoire serait heureusement très rare. 94% des enseignes respectent la loi, chiffre du baromètre Ipsos Commerço, la loi qui, depuis 3 ans, oblige la grande distribution à faire don aux associations alimentaires de tous leurs invendus. La règle est donc appliquée, comme a pu le constater notre reporter Adrien Toffolet dans un centre de collecte de la Banque Alimentaire.
Les camions déchargent des denrées par palette ou par caisse, sous l'œil attentif de Gilles Aurin, le responsable de l'entrepôt. Des conserves, des bocaux, mais aussi au frais dans une pièce à part.
Des produits laitiers, on trouve des plats cuisinés, de la viande, et puis des légumes frais, des salades en sachet, des choses comme ça, on conserve au frais.
C'est tout ce qui a été récolté lors de ramassage auprès des grandes et moyennes surfaces. Il en arrive 300 à 400 kilos par jour, en provenance de 8 à 10 magasins dans la région. Chez les professionnels, tous ou presque se sont pliés à la loi Garot de 2016, qui interdit à la grande distribution de jeter à la poubelle les invendus. Les quantités récoltées à Arcueil ont donc augmenté 5800 tonnes en 2018, même si certaines enseignes ont aussi changé leurs pratiques pour moins gaspiller. Nicole Farlotti, présidente de la Banque Alimentaire de Paris et d'Île-de-France.
Dans certains magasins, on a vu les quantités diminuer. Les approvisionnements, sans doute, sont mieux gérés. Après, il y a certains magasins qui préfèrent faire de la vente à prix cassé jusqu'au dernier jour. Ensuite, ils n'ont plus de produits à donner ou les produits sont en fin de vie. Donc là, il n'y a plus de possibilité de donner.
Depuis quelques années, heureusement, les banques alimentaires récupèrent d'autres produits chez les distributeurs, des surstocks ou des produits dont la livraison a tardé et qui ne seront jamais mis en rayon.
Par exemple, nous, on récupère sur une plateforme entre 10 et 15 palettes de légumes chaque semaine.
Des légumes qui, sans ça, auraient fini jetés.
Reportage d'Adrien Toffolet, le supermarché dont on parlait, Leclerc, de Mimizan, pris en flagrant délit. Encourt une amende de 3 750 euros et s'engage à ne plus jamais recommencer. Et puis à noter aussi le retour aujourd'hui devant la justice française du géant de l'industrie agroalimentaire Monsanto, poursuivi depuis des années par le même agriculteur Paul François. Un céréalier intoxiqué après avoir inhalé des vapeurs d'un herbicide de la firme. Il avait gagné ses 2 premières audiences mais avait perdu en cassation. Nouveau procès en appel cet après-midi devant le tribunal de Lyon.
Attention, veto en vue.
Le veto de Bruxelles sur le projet de fusion entre Siemens et Alstom, censé devenir un champion européen du ferroviaire, sauf que tous les feux sont au rouge. La Commission européenne, qui doit trancher aujourd'hui, craint qu'une telle fusion ne menace le consommateur. Risque de monopole et de hausse des prix, dit-elle. Mais Paris et Berlin entendent faire pression sur Bruxelles jusqu'au bout, avec l'appui du patronat. L'argument est simple, il faut lutter face à la concurrence chinoise. Delphine Simon.
Pour Bercy, cette décision est un risque très grave pour la souveraineté économique européenne. Alstom et Siemens ont fait des concessions sur 4% du chiffre d'affaires, mais trop limitées aux yeux du gendarme européen de la concurrence. Or, cette fusion, c'est une urgence, alors que le numéro 1 mondial chinois du ferroviaire CRRC commence à s'implanter en Europe. Alors qu'il lance la campagne pour les européennes, le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, fait part de son ras-le-bol.
On a besoin de ces champions européens. Traditionnellement, la concurrence était sous le regard de la protection des consommateurs. Bon, c'est une chose importante. Mais aujourd'hui, le marché, il est mondial. Il faut regarder quelle taille font les concurrents chinois ou américains. Je souhaite que la Commission européenne regarde ce sujet de la concurrence sous un angle très différent.
Il faut changer les règles, selon Bercy. Dans un manifeste de 25 pages, la puissante fédération de l'industrie allemande réclame, elle aussi, une adaptation du droit européen. Markus Beyrer, le directeur de Business Europe, lance un avertissement.
Si ça tourne mal, ça peut être assez nuisif aussi à la politique de concurrence européenne. parce qu'on a toujours dit qu'il faut développer cette politique de la concurrence, mais il faut la développer d'une façon équilibrée.
La Commission européenne ne bloque pas pour le plaisir, selon son président. Sur 6000 projets approuvés, seules une trentaine ont été bloqués.
Delphine Simon, à suivre encore dans l'actualité économique également, la publication aujourd'hui du très redouté rapport annuel de la Cour des comptes. Regard sans concession posé sur l'utilisation des deniers publics. Un mot du mouvement des Gilets jaunes, main dans la main hier avec la CGT. Un rappel des chiffres, 300 000 manifestants rouges et jaunes selon la CGT, 14 000 dans la capitale selon le cabinet indépendant Occurrence. Et puis ajoutons que la préfète de l'Ardèche, elle, a croisé la route de plusieurs gilets jaunes hier après-midi dans la ville d'Aubenas. Sa voiture a été rayée et l'un de ses pneus crevé, mais pas de violence physique. C'était une revendication de la communauté arménienne française depuis des années, pouvoir commémorer chaque année le génocide arménien. 1,5 million d'Arméniens tués de manière systématique à la fin de l'Empire ottoman entre 1915 et 1917. Cette journée de commémoration aura donc lieu le 24 avril. Décision annoncée officiellement hier par Emmanuel Macron. Une grande satisfaction pour Vartan Arzoumanian. Il est secrétaire de l'ARAM, l'Association pour la recherche et l'archivage de la mémoire arménienne.
C'était une demande des Français d'origine arménienne de voir cette date du 24 avril être inscrite dans l'agenda de la nation. C'est surtout un message à l'attention de toutes les personnes qui seraient susceptibles de vouloir poursuivre la négation du génocide arménien. Le 24 avril, il faut savoir que c'est la date symbolique du début du génocide arménien, puisque en 1915, dans l'Empire ottoman, près de 600 intellectuels arméniens ont été raflés, puis tués. Et aujourd'hui, la Turquie continue à nier ce crime de génocide. Donc effectivement, pour nous, Français d'origine arménienne, c'est un acte extrêmement important, une grande satisfaction de voir cette date inscrite comme une journée nationale.
Vartan Arzoumanian avec Yann Gallic.
7h37, direction l'Allemagne, Sébastien, qui peine encore à reconnaître entièrement le droit à l'avortement.
Oui, on le sait peu, mais en Allemagne, l'IVG n'est pas légal, il est seulement dépénalisé. Concrètement, jusqu'ici, pour un médecin, le simple fait de donner des informations sur son site internet peut être passible de sanctions. Une loi très critiquée qui devrait être assouplie. Un texte sera présenté ce matin au Conseil des ministres, mais il reste insuffisant pour les militants et les médecins les plus engagés. Le reportage de notre correspondant Ludovic Piétenu.
6 000 euros d'amende pour avoir écrit sur son site internet qu'elle réalisait des avortements. La gynécologue Christina Hennel est devenue le visage de ces Allemandes qui se battent pour légaliser l'interruption volontaire de grossesse et pouvoir mieux informer les femmes. Mais ce nouveau texte ne change, selon elle, pas grand-chose.
Ce compromis n'est pas un compromis. Il nous autorise certes à mentionner sur nos sites internet si nous pratiquons ou non l'avortement, mais rien de plus. Ma condamnation ne sera donc pas annulée. Je vais devoir aller devant la plus haute juridiction allemande pour que la loi change enfin en Allemagne.
Mais peut-être il faut 10 ans, il faut 1000 ans, je ne sais pas.
Cela fait déjà presque 50 ans que les militantes pro-IVG demandent la suppression du paragraphe 219A du code pénal allemand, un article hérité de 1933 et du régime nazi, si bien que même à Berlin, dans la région capitale, seuls 4 ou 5 médecins affichent clairement la couleur sur leur site web. Ce n'est pas le cas de Christiane Tenhardt.
À un moment, ça en devient idiot. Même avec ce projet du gouvernement, je pourrais juste écrire « Chères mesdames, je fais des IVG ». Et rien de plus. Non, franchement, on se croirait à la maternelle.
En attendant le débat sur ce texte au Parlement, cette gynécologue préfère rester discrète et s'en tenir sur son site à ce message mystérieux. Prenez rendez-vous avec moi, je ne vous laisserai pas seul. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
En bref, encore à l'étranger, un président américain fier de son bilan et qui maintient le cap, traditionnel discours de l'Union hier de Donald Trump devant le Congrès. Il a appelé républicains et démocrates au compromis, dénoncé les enquêtes partisanes, dit-il, autour de l'ingérence russe suspectée pendant sa campagne et promis encore de construire le mur avec le Mexique.
Et partout à tisse, Sébastien, c'est déjà la fin du journal.
Mais pas tout à fait, Nicolas. Le temps de vous faire redécouvrir le premier album d'un des héros de la bande dessinée française, Astérix le Gaulois, ressort aujourd'hui, 60 ans après sa première édition. 5000 exemplaires seulement pour les fans. Si le Gaulois est désormais ancré dans notre imaginaire, il a créé, à l'époque, une petite révolution. Delphine Evenou.
Quand Astérix débarque, Philippe n'a pas 10 ans et vit loin des librairies.
J'étais un petit peu à la campagne
dans un village gaulois.
Pour venir à bout du premier album, il a donc fallu à Philippe de la patience, de la ruse et de l'huile de coude.
Très artisanal.
Nous ne partirons que quand le travail sera terminé. Art tout à dit.
Mon premier album d'Astérix, c'était une collection de pages récupérées d'un magazine qui paraissait toutes les semaines. Il y avait quoi, 50 pages, donc il fallait une année.
Pour les suivants, le jeune gaulois est plus chanceux.
J'avais un papa qui gérait une bibliothèque, qui a fini par acheter les albums d'Astérix aussi, donc ça m'a permis de les connaître un peu avant mes copains dans le village.
380 millions de BD vendus depuis 60 ans et le succès a été immédiat.
Le général de Gaulle commence à affubler ses ministres donnant un X.
Nicolas Rouvière a écrit une thèse et trois ouvrages sur l'univers d'Astérix.
Quelle est la recette de cette potion, Audrey?
On a pu dire que Astérix était tombé au bon moment. Il n'était plus possible d'exalter la France impériale. Et avec Astérix, c'est finalement la France qui résiste. Puis ça permet aussi de flatter, je dirais, un certain chauvinisme, de présenter les Français sous un jour qui vise un petit peu à taire toutes les compromissions qu'il y a pu y avoir pendant la guerre.
Une double grille de lecture pour les grands et pour les petits. C'est sans doute ça, la potion magique d'Astérix.
Delphine Evenoux, la naissance d'Astérix, l'absence d'idées fixes dans ce premier album, la maison de Panoramix et même le secret de la potion magique, tout ce que vous voulez savoir sur le petit gaulois sans jamais avoir osé le demander, c'est à retrouver sur franceinter.fr.
Merci Sébastien Legénie.